La radio CFAQ 88.3 FM et les étudiants et étudiantes pro bono du Canada, section Université de Sherbrooke, vous présentent le balado pro bono pour l'accès à la justice.
Bonjour et bienvenue au premier balado pour l'accès à la justice des étudiants pro bono du Canada, de la section de l'Université Sherbrooke. J'espère que vous allez bien. Et alors tout d'abord, je me présente, moi c'est Alice Lavoie. Je suis en droit à ma deuxième année au bac à Sherbrooke ici. Puis c'est ça, je suis très excitée par ce projet. Vous allez voir, on a du contenu bien intéressant pour le balado d'aujourd'hui, donc restez à l'écoute et je laisse mes collègues se présenter.
Salut, je m'appelle Camilla Quiros et je suis également une étudiante en droit en deuxième année à l'UDS.
Et moi, c'est Émy Moreau. Je suis aussi étudiante en droit et je suis une des rares à faire le cheminement en sciences de la vie. Donc, bien que je désire aller en droit pharmaceutique, inquiétez-vous pas, j'ai un énorme intérêt pour le droit criminel, donc je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier Momentum, avec qui le podcast est en collaboration aujourd'hui. C'est un centre d'entraide pour hommes en estrie. Donc, depuis 20 ans, il offre des services pour soutenir les hommes vivant dans des situations de vulnérabilité, comme les ruptures amoureuses, les difficultés familiales, la perte d'emploi, les difficultés financières, etc. Ils vont vous accueillir avec ouverture rapidement pour trouver des solutions concrètes à vos problématiques. Donc, merci à Momentum de nous accorder cette confiance aujourd'hui.
Je vais maintenant vous parler de notre juriste invité, Maître Samuel Bouchard. Bonjour, Maître Bouchard. Nous sommes très contentes de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour. Maître Bouchard travaille présentement comme avocat permanent à l'aide juridique dans le domaine du droit criminel. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en droit ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un peu un retour aux sources. j'ai fait également ma maîtrise en droit criminel et pénal ici. Donc, j'ai passé plusieurs années aux études ici et j'ai commencé ma pratique là, avec mon stage au DPCP de Sherbrooke. Donc, mon stage du barreau là, de 6 mois. Par la suite, j'ai eu un contrat pour 4 mois environ. Donc, j'ai été procureur au poursuite criminelle et pénale. Par la suite, à la fin de mon contrat, je me suis dirigé vers la pratique privée. Donc, je suis resté en droit criminel, mais je suis allé en défense. Donc, pendant un peu plus d'un an, là, j'ai fait de la défense en pratique privée. Maintenant, ça fait environ un mois là, que je suis à l'aide juridique, toujours en droit criminel pour la défense, mais à l'aide juridique.
C'est quand même un gros changement là, d'aller de procureur à la pratique privée. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce changement-là?
Ben, en fait, moi... Depuis mon bac, moi, je suis tombé en amour avec la ville de Sherbrooke. Donc, moi, il n'était pas question que j'aille pratiquer ailleurs. Pourtant, je suis originaire de Drummondville. Ah oui? Bon, mais non, c'est ça. Il n'était pas question que je retourne ailleurs. Donc, moi, ayant fait la maîtrise, on a des procès simulés, défense et couronne. Je savais que les deux côtés m'intéressaient. J'étais pas plus d'un côté ou de l'autre nécessairement. Là, j'étais capable d'avoir un esprit critique des deux côtés. Donc, ma première motivation, c'était de rester à Sherbrooke. Il y avait des cabinets qui avaient besoin d'avocats. Donc, j'ai vraiment là, envoyé des CV parce que mon but était de rester ici. Puis, j'avais de l'intérêt pour la défense aussi. Donc, j'étais pas 100% couronne.
Bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir.
C'est moi qui vous remercie, ça me fait plaisir.
OK, donc dans le fond, je vais vous présenter le sujet de notre premier balado. Je pense que ça va bien vous intéresser. C'est l'impact d'un dossier criminel dans différentes sphères de la vie d'une personne. Petit fait notable, dans le fond, il y a environ 700 000 Québécois qui possèdent un dossier judiciaire. Donc, ça fait à peu près rondement 8 % de la population. Donc, on sait qu'il y a quand même beaucoup de personnes donc, que ça peut aider notre podcast d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, on va aborder différents thèmes, dont l'emploi, la recherche d'un logement, le droit de la famille, les assurances, l'immigration. Alors, c'est ça, on continue.
Donc, une des premières préoccupations d'une personne qui a un dossier criminel concerne le domaine de l'emploi. On sait tous dans notre société, effectivement, il faut avoir un emploi pour bien fonctionner dans notre monde. Donc, c'est un dossier qui est très important. Quelles sont les conséquences d'un dossier criminel sur la recherche d'un emploi?
Bon, avant d'entrer dans le cœur du sujet, il est important d'indiquer aux auditeurs certaines bases juridiques. Tout d'abord, la Charte québécoise vient garantir à toute personne le droit à la reconnaissance et à l'existence en pleine égalité des droits et libertés sans distinction, exclusion ou préférence, fondée sur un motif de discrimination énumérée. Ceci dit, l'article 10 de cette charte se lit comme se suit. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans les mesures prévues par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier à ce handicap.
Dans le cas qui nous intéresse, en fait, il est important de retenir que les antécédents judiciaires ne sont pas dans la liste des motifs de discrimination de l'article 10. Donc, ils ne sont pas prévus à la charte. Donc, l'employeur aurait le droit de poser des questions sur les antécédents judiciaires de quelqu'un puisque ce n'est pas prohibé dans l'article 10. Par contre, on a un article, l'article 18.2 de la charte, qui vient spécifier que personne peut congédier ou refuser d'embaucher ou pénaliser une personne qui a un antécédent judiciaire si l'infraction n'est pas en lien avec l'emploi. Donc, ça voudrait dire que, par exemple, quelqu'un qui a comme des antécédents de vol pourrait peut-être pas travailler dans une bijouterie, mais autrement, il pourrait peut-être travailler dans une animalerie, là, par exemple.
Ouais, puis il faut comprendre, en fait, là, que c'est assez large, là, le lien. Donc, je donne un exemple assez concret, là. Un enseignant, c'est pas obligé d'être des infractions en lien avec des enfants, par exemple. Mm-hmm. Donc, on peut vraiment... C'est vraiment large parce qu'au final, ce qui peut être regardé, c'est l'espèce de bonne moralité. Donc, on veut qu'un médecin, qu'un avocat, qu'un enseignant soit une personne de bonne moralité. Donc, tu sais, des histoires de fraude, on s'entend que un enseignant n'a pas vraiment à gérer un compte en banque, de l'argent et tout, mais un antécédent de fraude pourrait être dommageable parce que c'est quand même c'est une rupture d'un lien de confiance. On veut pas que nos enfants aient l'image de leur professeur qui est fraudeur. Donc, tu sais, vraiment... Effectivement, là, la loi prévoit qu'il faut que ça ait un lien, mais ce lien-là peut être assez large, je vous dirais.
OK, je comprends. Dans le fond, c'est ça, c'est que c'est plus d'assurer que la personne est une personne fiable un peu.
Oui, mais ça va beaucoup dépendre du type d'emploi. Donc, encore une fois, c'est sûr et sans dénigrer aucun emploi, là, tous les emplois sont importants, surtout aujourd'hui, mais quelqu'un qui travaille dans une usine, dans une chaîne de montage, bon, c'est sûr que parce qu'en fait, il va toujours y avoir un lien de confiance avec l'employeur. Et c'est pas vrai de dire que dès qu'une personne a un antécédent de vol ou de fraude, pourra plus jamais se trouver un emploi. Mm-hmm. Pourtant, c'est des crimes, tu sais, qui sont commis, puis qu'il y a eu, quand il y a eu de la fraude, un vol, bon, c'est le lien de confiance qui est brisé. Mais c'est vraiment comme l'image un peu de la population de se dire, ben moi, mon enfant, je veux pas que son professeur ait été condamné pour meurtre dans le passé, puis okay. Qu'après ça, il enseigne à mes enfants. Pourtant, il a pas tué un enfant, il a peut-être tué un adulte, donc ça mm-hmm. n'a aucun rapport avec le fait d'enseigner, mais on voudrait peut-être pas que cette personne-là enseigne à nos enfants. Même chose, je pense à la police, je pense aux éducatrices en CPE, en milieu familial. T'sais, dès que ça touche l'éducation de nos enfants, les avocats, ce qui est un peu plus peut-être prestigieux dans la société, mm-hmm. je vais le mettre entre guillemets, là. Mais tu sais, on veut quand même que ce soit des personnes qui aient une bonne réputation, mais on pourra s'en reparler quand même un petit peu plus tard, là. Il y a des processus, puis c'est pas parce qu'on a un antécédent mm-hmm. que nécessairement on pourra pas soit être avocat, médecin ou okay. enseignant.
C'est beaucoup dans l'image, c'est oui. Constamment, parce que pour reprendre l'exemple de l'usine, là, il y a seulement une relation employeur à employé, mais lorsque c'est à avoir contact avec le public, on met un peu, en tant qu'employeur, c'est nous qui avons choisi cette personne parce qu'on pensait qu'elle était apte à faire le bon travail, puis à donner les bons services à la population. Fait que c'est aussi, vaut mieux prévenir que guérir, j'imagine, avec tout ça.
Oui, c'est sûr. En même temps, la loi est assez claire. Il faut quand même que ça ait un lien. C'est pour ça que je vous dis, là, quelqu'un... Puis encore une fois, on pourra en reparler un petit peu plus tôt parce qu'on va vraiment aborder ce thème-là un peu plus tard. Mais la conduite avec les capacités affaiblies, c'est une infraction qu'on voit régulièrement. C'est ce qu'on appelle le crime de monsieur et madame tout le monde. Ça peut être n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui de conduire avec les capacités affaiblies. Donc... ça fait pas qu'une personne sera pas de bonne moralité. Donc là, ça dépend du crime, ça dépend de l'emploi, donc le lien qu'on va avoir soit avec le public, soit avec l'employeur, soit avec les gens avec qui on va travailler, les enfants ou peu importe. Donc pour ça, tantôt, je vous disais, le lien est large. C'est pas parce qu'on a un antécédent qu'on devient une personne de mauvaise moralité, mais il faut quand même faire attention à ce niveau-là.
Puis si on prend plus le milieu juridique, parce que je sais que ça va sûrement être des étudiants en droit plus qui vont nous écouter, est-ce que les employeurs dans le milieu juridique sont conscients qu'il faut vraiment qu'il y ait ce lien-là ou à cause de la réputation, entre guillemets, et comme on l'a mentionné, là, qui est plus prestigieux du domaine du droit, ça peut parfois jouer...
Mais c'est une excellente question, en fait, c'est qu'il y a des ordres professionnels qui sont là pour régir aussi l'entrée dans la profession. Donc, si on parle des avocats, par exemple, il y a le barreau, donc qui s'assure qu'il n'y a pas ce qu'on appelle là, une absence d'empêchement. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'exercer la profession d'avocat. Donc, avoir un antécédent, avoir un casier judiciaire, c'est pas un empêchement automatique. Par contre, il faudra passer devant une commission. Il y a des démarches. Moi, je fais pas de droit, que ce soit en déontologie ou dans ce niveau-là. Donc, j'ai jamais assisté à une de ces audiences-là, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle un board qui évalue notre demande. Et donc, un avocat qui aurait des antécédents de conduite de capacité affaiblie ou des antécédents qui remontent à son jeune temps à l'université, par exemple, sera pas automatiquement banni. Donc, c'est pas impossible pour lui de pratiquer la profession d'avocat. Et une fois qu'il est admis en tant que membre du barreau, ben là, après ça, c'est à l'employeur de déterminer s'il le veut comme employé ou pas. En tant qu'avocat, on a aussi la possibilité de se partir à son compte. Donc, si jamais il n'y a personne qui veut nous engager, on peut toujours... Une fois qu'on est admis, qu'on est membre de l'ordre, on peut pratiquer à notre compte aussi. Donc, ça ne nous empêchera pas de pratiquer.
OK, c'est super intéressant.
Est-ce que l'employeur peut renvoyer son employé s'il apprend qu'il a un dossier criminel alors qu'il n'en avait pas lors de son embauche?
Oui, en effet, un employeur pourrait congédier une personne qui a un antécédent judiciaire si celui-ci a un lien avec l'emploi, comme on vient de le mentionner. Je pense qu'on a quand même couvert par rapport à ça.
Oui, je pense que c'est quand même important de faire la distinction. Tu sais, c'est sûr que présentement, le sujet, c'est surtout les effets du casier judiciaire, l'impact. Mais je pense que c'est important de rappeler qu'au Canada, il y a la présomption d'innocence qui s'applique. Donc, si on est à l'emploi et qu'on fait face à des accusations, c'est pas automatiquement un motif de renvoi non plus. Et un des exemples qu'on peut donner, c'est des emplois où les gens peuvent être affectés à des tâches administratives. On voit ça dans les médias parfois, les policiers qui seraient accusés, qu'il y a une enquête en déontologie, même en parallèle, ils ne seront pas nécessairement congédiés, surtout qu'au criminel, il y a la présomption d'innocence. On ne veut pas congédier quelqu'un. Finalement, la personne est acquittée, on l'a un peu congédié, je vais mettre pour rien, même s'il y a des accusations. Mais donc, il y a cette possibilité-là aussi de sans renvoyer une personne, on peut l'affecter à d'autres tâches dans l'attente de voir le résultat, parce qu'il y a ça aussi... Même s'il n'y a pas d'accusation criminelle, c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi des comités déontologiques, donc pour le barreau, pour les policiers. Donc, il y a cette portion-là aussi qu'une personne pourrait techniquement être acquittée au criminel, mais quand même que la plainte en déontologie soit retenue et qu'il y ait des sanctions au niveau déontologique. Donc, de mettre fin à l'emploi alors qu'il y a simplement des accusations, ce serait peut-être un peu plus touché vu la présomption d'innocence au Canada.
OK. Dans le fond, ça serait comme un peu un renvoi droit sans raison, là, techniquement?
Ouais, ben, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je fais pas de droit du travail. À ce moment-là, ce serait pertinent, justement, quelqu'un qui se ferait renvoyer alors qu'il y a des accusations, ce serait extrêmement pertinent d'aller vérifier, consulter un avocat qui fait du droit du travail si effectivement c'est... Ça peut entrer dans un congédiement injustifié. Là, je ne veux pas m'embarquer là-dessus parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise.
Super. Est-ce qu'on passe à notre deuxième sujet du logement?
Oui.
OK, super. Et alors, dans le fond, comme je viens de le dire, on voulait discuter aussi du logement parce que c'est un sujet assez d'inquiétude là, parmi les personnes qui ont des antécédents judiciaires parce que tout le monde, dans le fond, a besoin d'un logement. C'est pas le fun de se retrouver à la rue. Alors, on aimerait savoir quelles sont les conséquences, dans le fond, d'un dossier criminel sur la recherche d'un logement. Est-ce qu'un locataire peut refuser, mettons, le renouvellement d'un bail si le locataire avait pas de dossier criminel puis que là, il y en a un pendant la durée du bail? Alors, c'est ça.
Ben, si je peux m'avancer, je sais que la Charte québécoise se limite seulement au secteur de l'emploi plus spécifiquement. Donc, il y avait encore les articles 10 et 18.2 qu'on avait mentionnés qui interdisaient la discrimination d'une personne qui a un dossier criminel dans le cadre du travail. Mais elle ne couvre pas le secteur du logement. Donc, un propriétaire pourrait refuser le renouvellement d'un bail si le locataire a un dossier criminel. Ça peut rendre la recherche d'un logement plus difficile pour une personne avec un dossier criminel. Par contre, peut-être que ça peut faire l'effet contraire. Est-ce que vous avez une opinion par rapport à ça?
Ben, c'est qu'en fait, tu sais, d'emblée, c'est que c'est un peu logique que ce soit comme ça dans la loi parce que au final, la relation locataire-locataire, bien que ce soit qu'il y ait des dispositions dans le Code civil qui est le tribunal administratif du logement, ça reste quand même une sphère assez privée, là. Donc, moi, je loue à quelqu'un, j'ai le droit de choisir à qui je veux louer, à qui je veux faire confiance parce que c'est quand même ma propriété et je la loue à quelqu'un. Donc, c'est quand même, il y a une certaine logique derrière ça. Maintenant, faut pas non plus faire peur aux gens qui nous écoutent. Mes clients sont pas tous dans la rue. Ils ont des logements, ils ont des appartements. Donc, encore une fois, ça va être une question de lien de confiance avec le propriétaire. Donc, est-ce que le propriétaire est à l'aise que cette personne-là continue à habiter dans sa propriété? Il y a rien qui l'empêcherait de résilier le bail, comme tu l'as mentionné. Mais, bon, ça va pas faciliter non plus. Donc, il y a pas d'avantage à avoir un casier judiciaire pour la recherche de logement. Ça peut représenter certaines difficultés parce qu'il y a des propriétaires qui font des recherches, il y en a d'autres qui n'en font pas, qui se fient au feeling, là, à la rencontre. Il y en a qui vont plus... et là, ça devient vraiment une question personnelle du propriétaire. Est-ce que je me base sur la personnalité? Est-ce que je me base sur les antécédents? Est-ce que je me base sur le dossier de crédit, par exemple? Donc, quelqu'un pourrait avoir des antécédents, mais être un excellent payeur, pas avoir de problème à ce niveau-là, au niveau de sa cote de crédit. Donc là, c'est le propriétaire qui choisit un peu. Mais comme je vous dis, mes clients ne sont pas tous dans la rue et il n'y a pas juste des logements non plus. Il y a aussi le volet achat de propriété. Donc, j'ai des clients qui sont propriétaires d'une maison. Mais là, par contre, on pourra un peu plus tard, là, il y a un sujet qui sont les assurances. On pourra en reparler à ce moment-là. Mais donc, savoir qu'on peut... On peut ne pas juste louer, mais on peut acheter aussi dans certains cas, maison, condo. Donc, faut pas faire peur, mais ça peut être un petit peu plus compliqué.
OK. Dans le fond, alors, tout tourne un peu autour du lien de confiance, comme même avec la maison, un prêt à la banque et tout. Est-ce que ça...
Oui, ben c'est ça. T'sais, au niveau des assurances, on pourra en reparler un peu, prêt hypothécaire et tout. C'est sûr que ça devient du civil, donc moi, j'en fais pas à tous les jours, mais c'est sûr que ça a un impact. Les banques, les caisses regardent ça. Maintenant, c'est quoi l'impact, puis est-ce qu'il y aurait un empêchement ou pas? Là-dessus, je peux pas m'avancer plus loin que ça. Okay. J'imagine que chaque cas est un cas d'espèce. On dit souvent ça en droit. Je pense que dans vos cours, vous l'entendez souvent. Là, chaque cas est un cas d'espèce, donc il faut vraiment y aller à la pièce, regarder chaque cas, puis les décisions vont être différentes à chaque cas.
Oui, exact, parce que c'est quand même une grosse limite à notre droit de propriété lorsque on décide de louer à quelqu'un d'autre, comme c'est une grosse confiance qu'on accorde. Puis j'imagine, moi, en tant que propriétaire, probablement que je regarderais aussi la salubrité, le dossier de crédit, etc. Puis les antécédents, s'ils n'ont aucun lien, comme par exemple la conduite avec faculté affaiblie, comme à quel point ça l'affecte, le fait qu'il habite dans mon logement, je ne sais pas, comme ça peut... ça se pose là, la question, là, est-ce que ça a vraiment un rapport avec le fait qu'il soit un bon locataire? C'est vraiment du cas par cas. Là,
non,
moi.
C'est ça. Donc, faut pas être inquiet. Là. Faut pas penser que parce que, par exemple, on est en appartement puis on est accusé ou on est déclaré coupable d'infraction, qu'automatiquement, le propriétaire va nous mettre dehors puis qu'on va se ramasser à la rue. Là. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment lié une confiance avec le locataire à ce moment-là.
Donc, parfait. Maintenant, on va passer à la section sur la famille. Donc, quand tu as un casier judiciaire, ça t'affecte pas juste toi, mais aussi ton conjoint ou ta conjointe et tes enfants. Donc, est-ce que l'impact d'un dossier criminel peut avoir des répercussions sur le droit d'accès à son enfant ou la garde partagée?
Oui, bien en fait, pour bien répondre à la question, il est important de savoir un petit peu plus de théorie sur le droit de la famille. Entre autres, qu'on a appris en droit de la famille que l'affaire CG contre VFT, qui est un jugement de 1987 de la Cour suprême, est venu établir que l'intérêt de l'enfant est le critère le plus important, sinon le seul, à vraiment évaluer le plus lorsqu'il est question de la garde ou des droits d'accès. C'est certain que d'autres éléments sont pris en considération, mais il faut toujours garder l'intérêt de l'enfant en tête pour chaque élément qu'on prend en considération. C'est l'article 33 qui est donc d'une importance primordiale. On peut le lire ensemble pour mieux comprendre. Donc, il va comme suit. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération autres les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
OK. Dans le fond, alors, quand on regarde si un parent peut avoir la garde de son enfant, ça veut dire qu'on regarde si c'est dans l'intérêt de l'enfant, dans le fond, de lui en donner la garde. Est-ce que c'est ça que je peux comprendre de cet article-là?
Oui, mais on va aussi regarder sa relation affective entre l'enfant et le parent. Des fois, l'environnement psychosocial, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui entrent en compte. On le sait, là, le domaine familial peut devenir assez complexe. Là, puis, c'est très émotif aussi, c'est très personnel. Donc, effectivement, le dossier criminel ne peut pas à lui seul empêcher la garde. Par contre, c'est sûr que il y a un impact comme dans les considérations, comme un peu tout autre aspect de la vie, là, en fait. Là. Tu sais, autant on peut aussi penser à la façon dont les parents font l'épicerie. Est-ce qu'ils donnent des aliments qui sont corrects pour la santé de l'enfant? Donc, autant l'alimentation que les antécédents criminels et tout autre est pris en compte parce que c'est sa vie générale à l'enfant qu'on veut évaluer.
Mm-hmm. Puis je sais aussi que, dans le fond, en règle générale, il essaie le plus possible de maximiser les contacts avec l'enfant pour le parent parce que ça, encore là, ça va en fonction de l'intérêt. Donc, comme tu disais, Amy, c'est ça, on ne peut pas vraiment empêcher, juste en raison du dossier criminel, un parent de voir son enfant parce qu'au final, ça pourrait être nocif sur l'enfant, c'est ça?
Oui, puis c'est clair au final que, Amy, je pense qu'elle l'a bien dit, c'est que tu peux être un bon parent même si tu as un casier judiciaire, puis tu peux être un mauvais parent même si tu n'as aucun antécédent judiciaire. Mm-hmm. Donc, je ne fais pas de droit de la famille. Par contre, au bureau, il y a des avocates qui font un travail extraordinaire et on se ramasse des fois avec le même client qui a des accusations criminelles, qui a aussi un dossier en matière familiale, en matière de protection de la jeunesse, par exemple, avec la DPJ. Et c'est clair que c'est pas automatique parce qu'il y a des accusations, parce qu'il y a des antécédents, qu'il va perdre la garde, qu'il n'aura plus de droit d'accès, rien. Ce que je trouve important de mentionner, c'est pas tant au niveau des antécédents, mais même pendant le processus judiciaire, on voit qu'il y a beaucoup de dossiers de violence conjugale ces temps-ci, principalement de la violence faite aux femmes, donc beaucoup d'hommes qui sont accusés au criminel. Et il faut comprendre que le tribunal, en fait, la chambre criminelle n'a pas vraiment juridiction pour interdire ou permettre des contacts. En fait, peut interdire des contacts dans le cadre de conditions de remise en liberté, mais pas en ce qui est vraiment la garde de l'enfant. Donc, souvent, ce qu'on va voir dans les conditions de remise en liberté d'un individu, ça va être qu'il va y avoir un interdit de contact, sauf dans la mesure où ils sont permis par jugement d'un tribunal les autorisant. Là, c'est une formulation à peu près comme ça qu'on voit. Donc, le juge en chambre criminelle va, à prime abord, interdire les contacts, que ce soit avec conjointe, ex-conjointe, enfant. Mais s'il y a un tribunal, donc la Cour supérieure, qui statue qu'il peut y avoir des visites ou une garde partagée ou peu importe, ben à ce moment-là, ça va être permis. Puis le tribunal de la Cour le jugement, pardon, de la Cour supérieure va avoir préséance. Et, ben en fait, il n'y aura pas préséance parce que en chambre criminelle, on aura prévu qu'il peut y avoir des contacts si la Cour supérieure le permet. Donc, mais oui, ça amène son lot de problématiques et d'adaptations parce que les gens souvent vont faire affaire pour la première fois avec un avocat. Ils vont devoir faire affaire avec deux avocats, un en droit criminel et un en droit familial en plus.
Dans le fond, je confirme, c'est compliqué. Comme on disait tantôt, il y a beaucoup de choses à considérer.
Est-ce que la nature des crimes peut mener à la déchéance parentale?
Dans le fond, ça peut. C'est quand même compliqué à répondre comme question. Là. C'est un peu plus que la déchéance parentale, tout d'abord, là, c'est une mesure qui est exceptionnelle puis qui permet d'enlever partiellement ou totalement l'autorité parentale. Elle a des lourdes conséquences parce que on enlève les attributs de l'autorité parentale, donc c'est les droits et devoirs de l'article 599 du Code civil. Donc c'est la garde, la surveillance, l'éducation, l'entretien de l'enfant. Donc lorsqu'on n'a plus de droits sur ce que l'enfant fait, ça peut avoir de lourdes conséquences sur sa vie à soi puis la vie de l'enfant. Par contre, c'est pas nécessairement toutes les activités qui vont amener à la déchéance. Par exemple, un père qui a abusé sexuellement et physiquement ses enfants dans RM contre LG en cour supérieure a eu la déchéance parentale prononcée. Par contre, l'affaire NC contre EA, c'est une mère qui a été agressée sexuellement, mais la déchéance n'a pas été accueillie. Par contre, parce que aucune violence a été faite à l'égard des enfants. Donc, bien qu'il a été mauvais, entre guillemets, avec sa femme, en aucun cas, il a mis en danger la santé, la sécurité de ses enfants. Donc, on n'a pas pu lui enlever. C'est la mère qui a voulu les enlever, les enfants, mais il a quand même gardé ses droits et obligations envers ses enfants malgré tout. Donc, je dirais que ça dépend vraiment là, du cas par cas.
OK, fait que dans le fond, on regarde vraiment c'est quoi... la chose dont on est accusé, puis après ça, on regarde si ça a rapport, puis si la personne mérite, dans le fond, la déchéance parentale, c'est ça?
Ouais, parce que ce que je suis pas une experte, là, loin de là, là, mais ce que j'en comprends, c'est que à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit en sécurité, c'est qu'il soit bien à la maison. Exact. Puis si ça implique que une personne consomme des substances ou peu importe, mais qu'il n'y a aucun, il n'y a rien qui affecte l'enfant, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, si ça n'a pas un impact direct sur l'enfant, j'ai l'impression que les juges sont plus réticents à enlever l'autorité parentale qui est très importante là, pour un parent.
Oui, c'est ça. En fait, les critères, là, et je me prononcerai pas là-dessus parce que, comme je dis, moi, j'ai des avocates au bureau qui font une merveilleuse job mieux que moi à ce niveau-là. Les critères en tant que tels, là, ma connaissance, c'est ce que j'ai appris au bac, mais le juge a ces critères-là en tête toujours, donc il faut qu'il les applique au cas par cas. Et c'est une évaluation, finalement, qui que le tribunal devra faire. Et ça va être, c'est pas une accusation en particulier qui va faire en sorte qu'il va avoir la déchéance d'autorité parentale ou pas, mais bien l'ensemble des facteurs mis dans une balance.
Par contre, on a vu des cas où le niveau d'activité criminelle était tellement élevé que même s'il n'y avait pas vraiment un rapport direct avec les enfants, le parent s'est quand même fait enlever ses responsabilités, son autorité parentale. Par exemple, la décision droit de la famille 172891, c'est un père qui s'est vu retirer son autorité parentale car il a commis plusieurs crimes, et ce, plus d'une centaine de fois, notamment pour des crimes contre la propriété, des crimes contre la personne incluant des menaces de mort et lésions corporelles, des infractions reliées aux stupéfiants. Donc, ça peut aussi être, si c'est trop intense, on pourrait, dans le fond, les tribunaux pourraient décider de retirer l'autorité parentale à la personne.
Hey, c'est fou, une centaine de crimes. Maître Bouchard, avez-vous déjà eu un client avec des accusations du genre?
D'une seule shot, non. Mais oui, écoutez, on a des... Vous avez parlé au début, là, je me rappelle plus c'est qui, mais qu'il y a à peu près 700 000 personnes qui ont des antécédents. Il faut comprendre qu'une personne peut avoir plusieurs antécédents et il y arrive parfois, là, c'est quand même rare, mais on a des personnes qui sont accusées qui ont des antécédents assez nombreux, qui peuvent avoir plusieurs dizaines de pages d'antécédents judiciaires. Donc, effectivement, ce ne serait peut-être pas les meilleurs candidats pour avoir l'autorité parentale, mais encore là, ça ne veut rien dire. Donc, c'est une évaluation de cas par cas. Une centaine de crimes, c'est dans quelles circonstances? On peut être multirécidiviste. Je vais encore prendre l'exemple de la conduite capacité affaiblie, mais on peut avoir un problème d'alcool ou à la limite même de drogue, mais quand même être en mesure de s'occuper de nos enfants. Donc, ça va dépendre vraiment des circonstances. C'est assez rare, mais oui, j'ai déjà eu des clients qui avaient, je ne les ai pas comptés, mais 50 pages d'antécédents, 3 antécédents par page, plus d'une centaine, c'est arrivé quelquefois, oui.
Je ne sais pas si vous pouvez vous prononcer là-dessus, mais est-ce que le milieu familial, vous avez remarqué dans votre pratique que ça a quand même un impact sur qu'est-ce que... Par exemple, mettons, est-ce que ça se transmet de génération en génération selon le milieu?
Pas toujours, on le souhaite pas, mais oui, c'est arrivé que le bureau représente les parents, le père ou la mère pour des accusations criminelles et que quelques années plus tard, on se retrouve à représenter le fils ou la fille en plus. C'est sûr que il y a des... Écoutez, en tant qu'avocat criminaliste, on porte un peu le chapeau de psychologue, travailleur social. Même quand nos clients sont un peu plus jeunes, on est quasiment comme leurs parents aussi des fois, parce qu'ils n'en ont pas eu ou parce qu'ils ont été dans des milieux défavorisés. Donc, il y a clairement des professionnels qui font ça mieux que nous. Mais quand on accompagne un client, on a vraiment un lien de confiance, donc ils peuvent se confier à nous, ils peuvent nous confier des choses qu'ils n'ont pas confiées à personne d'autre. On a le secret professionnel qui s'applique tout le temps, donc mais ça arrive, oui, qu'on voit un peu, malheureusement, que de génération en génération, on a les personnes, on a eu le père, on a eu la mère, et là, on se retrouve avec le fils, ça arrive, mais c'est pas non plus si fréquent que ça, là.
C'est super de voir le lien de confiance qu'on peut développer avec, justement, si on peut les mettre leur mettre un peu le droit dans la tête, puis pas nécessairement juste les lois, mais comme d'avoir un impact positif sur ces jeunes-là pour les mettre dans le droit chemin pour le futur. C'est vraiment formidable. Je trouve que c'est un bel aspect qu'on parle pas beaucoup des avocats.
Oui, puis le lien de confiance, c'est des fois, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà entendu des collègues qui disaient, tu sais, finalement, le fils qu'on représente, c'est son père qui lui a dit de nous appeler parce qu'il avait aimé le service, entre guillemets, là. Il avait aimé la relation de confiance qu'il avait avec son avocat. Donc, c'est le père qui dit, maintenant que toi aussi t'as des accusations, appelle mon avocat, puis tu vas voir, c'est un bon avocat. Donc, tu sais, il y a ce lien de confiance aussi qui est créé, puis qui est un peu flatteur, je vous dirais, là, que quand on nous réfère des clients par d'autres clients parce qu'ils ont aimé les services, là, ça fait toujours du bien entendre.
Ah, c'est bien ça.
Vous écoutez le balado Pro Bono pour l'accès à la justice, une collaboration d'étudiants et d'étudiantes Pro Bono du Canada, section Université de Sherbrooke et la radio CFAQ 88.3 FM.
Bon, ben super, maintenant, je pense qu'on peut passer à la portion sur les assurances.
OK. Ouais, là, en plus, on avait plein de petits trucs à dire par rapport à ça. On y fait référence depuis tantôt. Dans le fond, nos auditeurs veulent savoir, est-ce qu'il y a des répercussions sur l'obtention d'une police d'assurance pour quelqu'un qui a un casier judiciaire? Est-ce que c'est plus difficile, plus facile?
C'est ça.
C'est encore moi qui réponds à la question, mais juste, je suis pas une professionnelle non plus, puis je pense que, mais selon nos recherches, oui, ça peut être plus difficile d'obtenir un contrat d'assurance. On parle de contrat d'assurance en automobile, en habitation, en assurance vie. Donc, tout au long de notre vie, on est vraiment en contact avec des contrats d'assurance un peu partout. Donc, certains assureurs peuvent refuser d'assurer quelqu'un qui a un passé judiciaire, mais c'est pas le cas pour chacun d'eux. Il y a des primes d'assurance lorsqu'on a un passé avec la loi qui peuvent être assez élevées, par contre.
Dans le fond, c'est les compagnies d'assurance qui ont la discrétion de s'ils veulent assurer quelqu'un, puis aussi le montant qu'ils vont charger à une personne qui, mettons, aurait peut-être un historique d'un dossier criminel, par exemple, contrat avec les facultés affaiblies.
Oui. En fait, là, les assurances se font au quotidien de la gestion de risque, finalement. Là, c'est de l'actuariat, puis c'est des mathématiques de c'est quoi le risque qu'on prend, donc combien qu'on lui charge. Encore une fois, on parle un peu d'un domaine privé, donc l'assureur est jamais obligé d'assurer une personne. Le meilleur exemple, c'est les conduites avec les capacités affaiblies. Là, on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir, même au niveau financier. D'abord, je pense que c'est important de mentionner que conduire avec les capacités affaiblies, c'est criminel. On en parle depuis tantôt, mais c'est pas juste un ticket, là. C'est vraiment, ça crée un antécédent judiciaire, puis c'est vraiment criminel. Et sachez que si vous avez une récidive, donc vous le faites une deuxième, une troisième fois, les peines qui sont demandées la plupart du temps, pour pas dire quasi chaque fois, c'est de la détention. Donc on a le droit à une erreur, mais la deuxième, si c'est trop rapproché, c'est de la prison automatiquement, même si la personne n'a aucun autre antécédent judiciaire. Donc c'est vraiment important de le mentionner. C'est difficile de chiffrer combien peut coûter une cause ou un antécédent en matière de capacité affaiblie, parce que d'une part, bon, il y a les frais d'avocat qui peuvent différer d'avocat, mais c'est sûr qu'au niveau des primes d'assurance, ils peuvent parfois tripler. Donc, soit l'assureur vous dit, bon, on vous assure plus, vous êtes plus assurable, trouvez-vous une autre compagnie, ou vont vous dire, ben, votre prime va doubler, et on a même vu certains cas où la prime triplait. Ça, c'est sans compter aussi que la personne, la fameuse balloune dans l'auto, ce qu'on appelle la balloune qui est l'éthylomètre, donc l'antidémarreur éthylométrique, ça aussi, ça coûte de l'argent. Il y a un entretien qui doit être fait, l'installation, le processus d'évaluation pour que la SAC permette, parce que c'est pas un droit, c'est un privilège. Donc, il y a une évaluation qui est faite auprès de la SAC. On peut être accepté, on peut être refusé. Si on est accepté, là, on peut installer l'éthylomètre dans le véhicule. Mais il peut y avoir des formations. Donc, quelqu'un qui aurait un problème de consommation aurait l'obligation de suivre une formation, de suivre une thérapie. Ça, c'est pas la SAC qui paye, là. Donc, ça sort des poches de la personne qui a été déclarée coupable. Donc, c'est plusieurs milliers de dollars. C'est, comme je vous dis, c'est difficile à chiffrer, là. Mais tu sais, pour faire un chiffre rond, là, c'est sûr que on peut parler d'aux alentours de 10 000 $ là. Un dossier comme ça, et ça, je vous dirais que c'est même en excluant les frais d'avocat, là. Donc, juste l'entretien, l'éthylomètre peut être dans le véhicule pendant un an, peut même aller jusqu'à 5 ans. Dans le cas de récidive, c'est 10 ans, ça peut même être à vie. Donc, c'est vraiment important de bien s'informer, mais au niveau des conséquences pécuniaires, ça peut être très élevé, ça peut monter rapidement là, avec toutes les démarches que la personne doit faire. Et ça aussi, ben, il y a le permis, les immatriculations aussi, que les prix vont augmenter. Donc finalement, on s'en sort pas, tout ce qui peut augmenter augmente, ça c'est clair.
Mais ça, dans le fond, à votre connaissance, comme l'éthylomètre, la formation, ces choses-là, est-ce que c'est les compagnies d'assurance qui peuvent exiger du client qui aille suivre ses obligations.
En fait, c'est la SAAC, donc c'est le programme PERCA, et c'est vraiment la SAAC pour, parce que, en fait, comme je vous disais, c'est pas un droit, c'est un privilège, ouais. Donc d'avoir les kilomètres dans le véhicule, c'est que la SAAC vous émet un permis restreint qui vous permet de conduire avec les kilomètres dans votre véhicule. Vous n'avez pas le droit de conduire aucun autre véhicule, okay. Et vous n'avez pas le droit de conduire avec aucune goutte d'alcool. Donc, c'est pas un 0.08, c'est tolérance zéro à ce niveau-là. Pour conduire, pour démarrer le véhicule, il faut souffler. Il peut y avoir des demandes aléatoires pendant qu'on roule. Ça va nous demander de nous tasser sur le côté pour souffler, pour s'assurer qu'en conduisant, on n'a pas consommé.
Ouais.
Donc, mais c'est vraiment la SAAC. Donc, la SAAC, pour à la base émettre ce permis restreint-là, peut vous demander de suivre des formations, de faire le programme PERCA, de faire un suivi, okay. Même psychologique, si c'est vraiment un problème d'alcoolisme qui est ancré, pourrait aller jusqu'à vous demander un suivi avec un psychologue. Et ça, encore une fois, c'est la personne qui paye, c'est pas la SAAC, c'est pas la société, ouais. C'est la personne. Donc, et après ça, il y a des compagnies d'assurance là, qui assurent, j'allais dire sans problème, mais à fort coût.
Mm-hmm.
Mais c'est pas garanti. La SAAC vous garantit pas que par la suite, il y a une compagnie d'assurance qui va vous assurer.
Exactement.
Donc, on peut faire tout ce processus-là et se rendre compte qu'il n'y a aucune compagnie qui veut nous assurer à la fin. Normalement, les compagnies vont assurer à plus fort coût, mais pourraient simplement refuser de vous assurer aussi. Donc, c'est à prendre en considération.
J'imagine que ça vient beaucoup de logistique aussi pour les compagnies d'assurance à vérifier si l'individu a compléter toutes les recommandations de la SAAC pour pouvoir conduire. Donc.
Exact. Il y a un travail de collaboration là, qui se fait avec la SAAC pour que tous les éléments pertinents. Mais du moment où la SAAC émet le permis restreint, la personne a le permis restreint, donc la compagnie d'assurance peut facilement vérifier cet aspect-là.
Puis ça, c'est à vie. Est-ce que, parce que après un an, par exemple, les kilomètres est enlevé, il n'y a pas eu d'accident. Après 5 ans, il n'y a pas eu plus d'accident. Est-ce que, étant donné que le risque diminue, la prime d'assurance qui était associée au dossier judiciaire diminue ou ça va vraiment, est-ce qu'on change d'assureur? Qu'est-ce qui sont les solutions?
C'est une excellente question à laquelle je pourrais pas répondre parce que j'ai pas de client, moi, qui est revenu 5 ans plus tard pour me dire mes assurances ont rediminué ou augmenté. Au final, c'est vraiment la décision de l'assureur de décider de continuer, de rediminuer ses primes, de les laisser au même prix. Mais ce serait intéressant. En fait, c'est une excellente question à laquelle même moi, je serais curieux de savoir la réponse de la part des compagnies d'assurance.
OK, donc au final, les compagnies d'assurance, est-ce qu'ils peuvent comme un peu se débarrasser des clients en faisant, mettons, une prime triplée ou c'est plus pour assurer leur propre risque, ça, ou parfois il y a des genres de...
Bien, c'est sûr que je ne suis pas dans leur tête, mais tu sais, ils sont jamais tenus d'assurer quelqu'un. Mm-hmm. Donc, s'ils veulent pas l'assurer, ils ont juste à émettre un refus d'assurance, okay. Et c'est pas, on va lui mettre tellement cher que c'est lui qui va refuser. Nous, on peut dire, vous êtes pas assurable chez nous, allez voir ailleurs, tout simplement. Donc, mais eux, c'est, comme je vous disais, c'est la gestion du risque. Donc, si vous assurent puis qu'ils vous fixent votre prix de votre prime, c'est qu'ils sont prêts à assumer le risque que vous représentez à ce prix-là.
OK.
Puis,
super.
D'un point de vue légal, on peut pas ne pas être assuré si on veut conduire.
Exactement.
Donc, qu'est-ce qui se passe?
Mais il y a plusieurs impacts et là, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures juste de ça parce qu'il y a tellement d'impacts avant même d'avoir le casier judiciaire. Lorsqu'on se fait arrêter, il y a des suspensions de permis et il y a plein de facteurs. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants, par exemple? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce que quelqu'un a été blessé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? C'est quoi le taux d'alcoolémie qui est enregistré au poste aussi? C'est des éléments qui sont hyper importants qui vont déterminer combien de temps on va avoir les kilomètres dans le véhicule, combien de temps va être interdit de conduire, le montant de la prime. Donc, tout ça va être pris en considération. Mais il y a des suspensions de permis, il y a des saisies de véhicules, parfois, dépendamment du taux, dépendamment si c'est une récidive. Donc, il y a plusieurs impacts qu'on n'a peut-être pas en tête, mais dès l'arrestation, avant même d'être déclaré coupable, il y a déjà des conséquences. Donc, c'est important de bien s'informer. Mais au niveau des assurances, là, mon expertise se limiterait là.
Oh, c'est gros, c'est intéressant. Mais aussi, c'est important de mentionner, là, on mentionne tous les gros impacts que ça peut avoir si on a des antécédents sur les assurances. Mais dans le fond, je pense que c'est important de les déclarer. Il y a des gens qui pourraient penser à ne pas les déclarer, je suppose.
Ouais, les fausses déclarations, c'est à proscrire.
Ouais.
Évidemment.
OK.
Et on a parlé beaucoup des capacités affaiblies. Je fais une petite parenthèse aussi. Il n'y a pas juste ça. Donc, l'assurance vie, l'assurance habitation, quelqu'un qui serait déclaré coupable, par exemple, de production d'huile de cannabis à la maison, il y a d'énormes dangers d'incendie, d'explosion. Donc, quelqu'un qui est déclaré coupable de ça, clairement, son assurance habitation va augmenter. Il y a peut-être même des plus de compagnie d'assurance qui voudra l'assurer, ce sera à voir, mais définitivement, les primes vont augmenter. Même chose pour l'assurance vie, quelqu'un qui vit de la criminalité, c'est plus cher, plus chèrement assurable.
C'est un pensez-y bien.
Voilà.
Ouais. Bon, maintenant, on va passer au dernier thème qu'on voulait aborder, qui est l'immigration. Donc, on se demandait si les répercussions d'un casier judiciaire pouvaient être différentes pour un citoyen canadien versus un résident permanent ou un réfugié ou un résident temporaire, et aussi par le fait même si un casier judiciaire peut nuire à l'entrée dans un autre pays. Ce sont toutes des questions qui, ce serait le fun à savoir avant que tu te retrouves à la frontière, mettons, des États-Unis.
Oui, effectivement. Bon, c'est sûr que maintenant, ça va être c'est de plus en plus difficile de voyager, non seulement juste à cause du casier judiciaire, mais surtout à cause de notre ami le COVID. Mais c'est quand même toujours pertinent parce que les frontières sont réouvertes. Je pense entre autres à nos voisins, les États-Unis. C'est sûr que depuis le 11 septembre 2001, il y a un plus grand contrôle sur l'entrée des Canadiens, mais non seulement des Canadiens, mais partout à travers le monde, aux États-Unis. Il est certain que un dossier judiciaire est regardé attentivement par les douaniers. Donc, commençons avec les actes qui sont tolérés aux frontières. Il faut quand même savoir que le douanier a un pouvoir discrétionnaire sur les entrées du pays. Donc, un refus n'est pas nécessairement octroyé à une personne avec un casier judiciaire. Par contre, comme c'est un pouvoir discrétionnaire, ça se peut que ça fasse 20 ans que une personne puisse aller aux États-Unis à chaque été en Floride, puis que après 20 ans, il se fasse refuser l'entrée l'exemple de conduite pour faculté affaiblie, mais qui peut se faire refuser l'entrée après 20 ans où est-ce qu'il y avait aucun problème parce que le douanier a décidé que aujourd'hui il allait pas venir dans aux États-Unis, en fait. C'est quand même un pouvoir important pour nos douaniers. On entend souvent des anecdotes de personnes avec voix de fait simple, méfait, ou etc., qui réussissent à traverser les frontières américaines. Donc, c'est pas automatique, là. Mais il est important de se souvenir qu'il y a toujours la discrétion de refuser l'entrée. Puis, même pour quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire, je pense que ça aussi, c'est quand même important à considérer.
Oui, c'est ça, parce que je peux être dans un véhicule avec deux autres personnes qui ont des antécédents, qui les déclarent, et moi qui n'ai aucun antécédent, qui se met à injurier le douanier, puis à être irrespectueux, le douanier pourrait décider que moi je rentre pas, mais que les deux autres rentrent, donc ça devient vraiment discrétionnaire. C'est sûr qu'aux États-Unis, là, ils ont ce qu'ils appellent un peu les crimes de turpitude morale et les crimes liés aux substances, donc aux drogues, où là, ça va être beaucoup plus compliqué, voire parfois impossible de traverser. Mais sinon, la grande majorité des crimes, je vais dire du quotidien, là, donc c'est pas tous les jours qu'il y a des meurtres, des choses comme ça, où là, clairement, on pourra pas aller aux États-Unis, mais les crimes de gravité objective moindre, c'est vraiment discrétionnaire au douanier, puis ça, il pourrait vous refuser l'entrée pour une autre raison, même si vous avez des antécédents, pas se baser sur le fait que vous avez des antécédents, mais parce que vous essayez d'entrer illégalement des objets. Là. Donc, c'est vraiment le douanier qui décide au final.
Oui, dans le fond, j'ai entendu parler d'une demande de waiver. Est-ce que ça peut aider à rentrer au pays, dans le fond?
Oui, nous, au bureau, on n'en fait pas, mais effectivement, il y a des demandes de waiver qui existent. Donc, même avec un casier judiciaire, on peut faire la demande d'avoir la permission, finalement, d'entrer aux États-Unis pour une certaine période. Okay. Il y a des avocats qui se spécialisent là-dedans. On n'est pas obligé de faire affaire avec un avocat pour faire ces demandes-là, mais c'est sûr que mon conseil, c'est à la limite en consulter un pour s'assurer que le formulaire est rempli adéquatement, qu'on a bien répondu aux questions, qu'on s'assure d'avoir le plus de chances possible que notre demande soit acceptée. Il y a des avocats vraiment qui se spécialisent dans ces demandes-là.
Super! Ben maintenant, passons à notre propre pays. Tout d'abord, la sécurité est la base même de la législation canadienne. Donc, le gouvernement peut se réserver le droit d'expulser ou bloquer les frontières à toute personne qui juge qu'il va compromettre la sécurité des Canadiens. Donc, prenons le cas des réfugiés qui ont de la difficulté à entrer au Canada.
Donc, effectivement, il y a entre autres l'affaire Ezekola, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, de la Cour suprême du Canada qui a été un arrêt-clé dans la matière. Cet article-là, dans le fond, cette affaire-là, pardon, visait l'article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Puis qu'est-ce qui a été vraiment important dans la décision, c'est que les individus ayant commis des crimes contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun ne peuvent pas obtenir le statut de réfugié. Donc, ils ont beau être en danger dans leur pays d'origine, ils veulent être en sécurité, ils veulent aller au Canada, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont commis un crime grave dans leur autre pays. Donc, ça peut être une très grosse problématique.
Donc, ça veut dire que si je suis un réfugié et je commets un voie de fait simple, ce n'est pas une raison assez valide pour me faire expulser du pays?
Il y a une différence entre un crime grave, la grande criminalité, puis un crime de voie de fait. Je vais laisser Maître Bouchard se
oui, c'est prononcer. Ça. J'attendais de voir où ça s'en allait, tout ça. Mais non, effectivement, en fait, c'est encore une fois, si vous êtes une personne qui a un statut autre que citoyenneté canadienne au Canada et que vous êtes accusé, je vous recommande très fortement d'aller consulter d'une part un avocat en droit criminel, mais aussi un avocat en droit de l'immigration parce qu'il y a des conséquences que même un avocat criminaliste ne connaît pas. Il y a des instances, des audiences qui peuvent être tenues qu'un avocat criminaliste ne fait pas. Par contre, dans mon travail, je dois toujours garder en tête l'article 36 de ce qu'on appelle la LIPR, là, la loi sur l'immigration au Canada. Et c'est qu'en fait, là, il y a des crimes, on distingue des types de crimes soit de la grande criminalité ou de la criminalité. Il y a aussi d'autres, par exemple, la criminalité organisée et des crimes internationaux. Bon, il y a toutes les autres, mais principalement, nous, ce qu'on va traiter, c'est grande criminalité versus criminalité. Et ça va être déterminé par la peine maximale qui est édictée au code criminel pour l'infraction. Donc, en fait, le barème, c'est un 10 ans. Donc, si l'infraction est punissable par 10 ans et plus, ça va être considéré comme la grande criminalité. Ou bien, si la personne a été déclarée coupable et a reçu une peine de détention de 6 mois et plus, ça va être considéré comme la grande criminalité. Donc, même si le crime à la base n'est pas punissable par 10 ans, si la personne a reçu une peine de 6 mois de détention et plus, ça va être considéré comme la grande criminalité. Et là, automatiquement, il va y avoir une interdiction de territoire qui va être prononcée et ça va enclencher une mesure de renvoi. Faut comprendre que cette mesure de renvoi-là, en fait, l'exécution de la mesure n'est pas automatique et c'est là où on rentre dans le droit de l'immigration où mon expertise à moi s'arrête. Mais je dois toujours garder en tête, quand je négocie avec le procureur sur, par exemple, des plaidoyers de culpabilité sur certains chefs, qu'il y a des arrêts conditionnels, par exemple, sur d'autres chefs, de garder en tête que, bon, il faudrait que les plaidoyers soient enregistrés sur les crimes qui sont pas passibles de 10 ans et ceux qui sont passibles de 10 ans soient retirés, qu'il y a des arrêts conditionnels ou que mon client soit acquitté. Ou encore qu'on s'entende pour qu'à tout le moins, si vraiment c'est des crimes graves qui méritent, ben pas qu'ils méritent plus que 10 ans, mais qui sont punissables par 10 ans ou plus et que ça va valoir de la prison assurément. Et qu'il n'y a pas de moyen de modifier ces chefs-là, mais c'est de m'assurer ou d'essayer le plus possible que mon client reçoive une peine de 6 mois moins un jour, parce qu'à 6 mois, ça devient de la grande criminalité. Ici, c'est déjà de la grande criminalité parce que ça vaut plus de 10 ans à ce moment-là. Le 6 mois reste quand même pertinent parce qu'en vertu de l'article 64 de la même loi, il y a un droit d'appel de la décision, donc de l'exécution du renvoi. Et si la personne a reçu une peine de 6 mois et plus, il n'y a pas de droit d'appel possible. Tandis que s'il a reçu moins de 6 mois, il va pouvoir faire appel de cette décision-là. Donc, le 6 mois est important pour deux raisons qu'il faut toujours garder en tête. Mais clairement, et le statut va dépendre. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui est résidente permanente? Est-ce que c'est un statut temporaire? Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est un visa de travail? Est-ce que c'est un visiteur qui venait voyager, qui a commis des délits? Donc, à même ce statut-là, si, par exemple, un invité, donc un voyageur commet un crime, on ne parlera pas de grande criminalité à ce moment-là. Dès qu'on parle de criminalité, et lorsqu'on regarde la loi sur l'immigration, c'est finalement tous les crimes au Canada qui sont édictés par le code criminel, il y a une mesure de renvoi. Donc, il n'y a pas cette notion de grande criminalité-là pour les visiteurs, notamment, là, mais ça ne s'applique pas juste à eux. Mais c'est important, donc, de savoir le statut de notre client, c'est quoi au Canada, et par la suite négocier en conséquence.
OK. Donc, dans le fond, ça a un impact si quelqu'un, mettons, est résident permanent. Est-ce que les charges peuvent être plus pardonnées que quelqu'un qui serait juste en visite comme un étudiant, par exemple, ou dans le fond, c'est juste...
Ben, c'est qu'il faut le garder en tête. Et là, je vous donne un exemple un peu disproportionné, mais un résident permanent qui commettrait un meurtre ici, c'est perpétuité. Donc, clairement, c'est de la grande criminalité, mais on va pas lui donner une peine de 6 mois moins un jour pour qu'il puisse avoir son droit d'appel. Faut quand même que la sentence qui soit rendue au final soit raisonnable, soit proportionnelle avec le crime. Donc, on garde en tête que si, bon, ce crime-là pourrait valoir, par exemple, 7 mois, ben on garde en tête que si cette personne-là reçoit une peine de détention de 7 mois, il n'y aura pas de droit d'appel, il risque fort probablement d'être expulsé. Je dis fort probablement parce que il y a des audiences qui se tiennent, il y a des avocats en droit de l'immigration qui font ces audiences-là, donc c'est pas automatique, c'est pas t'as commis ce crime-là, merci, bye, puis on se revoit pas. Il y a plusieurs impacts, mais facteurs, notamment le pays dans lequel il va être retourné, est-ce qu'il risque la persécution, il y a tout ça qui est évalué, qu'il y a plein de facteurs que moi j'évalue pas dans mon dossier au criminel, mais qu'un avocat en droit de l'immigration va évaluer.
C'est ça, dans le fond, je me demandais, est-ce que, mettons, on fait le procès, puis après ça, on décide, bon, il y a un an de prison, est-ce que c'est dans la même instance qu'on décide qu'il est aussi renvoyé? Dans le fond, cette année-là, finalement, il va la faire en prison s'il a la faire comme dans son pays qui est renvoyé?
Non, c'est vraiment deux instances différentes. Okay. Donc, le criminel va être géré. S'il reçoit un an de prison, il va faire son année. Puis après ça, il y a aussi les démarches. Là. Moi, j'ai déjà vu dans le temps où il y avait des gens au palais, parce que là, c'est beaucoup de la visio avec la COVID, mais on avait des agents de l'immigration qui suivaient des dossiers en particulier particulier parce qu'ils savaient que telle personne avait tel statut, mm-hmm. et dépendamment de la décision, ben eux allaient prendre charge de la personne ou pas, et ils allaient entamer des procédures. Donc si j'ai déjà vu là, des agents des services frontaliers de l'immigration suivre attentivement des dossiers, okay. de certaines personnes en particulier.
Fait que la personne, elle reste ici pour faire sa sentence avant d'être envoyée. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Ou...
C'est ma compréhension. Je pourrais pas vous le jurer sur la Bible aujourd'hui, okay. mais c'est ma compréhension que parce qu'il a reçu sa sentence, on va pas l'envoyer la faire ailleurs.
Okay.
Mais donc, ça, oui, il l'a fait ici.
OK.
Est-ce que parfois, une absolution peut être considérée pour réduire les conséquences pour le criminel?
Oui, en fait, et l'absolution, en fait, on aurait pu en parler à chacun des thèmes. Donc, je pense que c'est bien de peut-être clore un peu la discussion à ce niveau-là parce que il y a quand même des processus ou des mécanismes, en fait, qui sont là pour amoindrir un petit peu les conséquences là, d'un casier judiciaire. Donc, tu me parles de l'absolution. C'est un peu une fiction juridique où on va dire la personne est déclarée coupable, mais réputée ne pas être condamné. Et ça, ce que ça. Donc, ça permet à la personne de ne pas avoir de casier judiciaire. Il y a quand même une inscription qui est faite, donc c'est pas. Personne ne pourra jamais le revoir et ça disparaît entre deux chaises. Par contre, si je vous donne l'exemple d'un employeur qui voudrait aller vérifier au greffe si vous avez un antécédent, mais une personne qui aurait reçu une absolution inconditionnelle peut faire une demande de non-communication. Dans un délai de un an après. Donc, après un an de son absolution inconditionnelle, peut faire une demande de non-communication. Et là, si un citoyen, un employeur va au greffe, fait une recherche avec le nom de la personne, va rien trouver. Il y a plusieurs délais. Si on parle d'une absolution conditionnelle, ça va être 3 ans après la fin des conditions où on peut faire cette demande-là. Et comme je dis, là, encore une fois, c'est important de consulter un avocat en droit criminel. Ça, c'est vraiment dans mon domaine. Je peux conseiller les gens à ce niveau là, les délais, si c'est un acquittement, si c'est un arrêt des procédures, si on règle avec un 810, là, des fois dans la population, on entend ça, là, avoir un 810 qui est en fait une ordonnance là, de ne pas troubler la paix. Donc, si une personne est accusée, par exemple, de voie de fait, la personne pourrait être acquittée de cette infraction-là, mais souscrire un engagement de garder la paix, donc pendant 1 an ou 2 ans, a des conditions quand même à respecter, mais va avoir été acquitté de l'infraction initiale, donc on peut bénéficier de l'acquittement et ne pas avoir de casier judiciaire avec un 810. Il y a plusieurs mécanismes comme ça qui sont à notre disposition. Donc, quand on a une personne qui est résidente permanente, on essaie encore plus d'avoir ces résultats-là, mais des fois, c'est pas toujours possible, dépendamment de la personnalité de la personne, dépendamment de son passé, dépendamment des accusations. Bref, il y a plein de choses à prendre en considération.
Ouais, c'est ça. Je me demandais... Dans le fond, c'est quand est-ce qu'on peut demander l'absolution? T'sais, est-ce que c'est tout le monde qui a le droit de demander ça? Parce qu'au final, si tout le monde pouvait le demander, personne n'aurait commis de crime, dans le fond.
En fait, l'absolution, il y a deux critères. C'est l'intérêt véritable de la personne. Donc, il faut démontrer qu'on mérite, là, qu'on a l'intérêt, en fait, pour avoir une absolution. C'est le cas souvent des gens. T'sais, tantôt, on parlait des avocats, des éducatrices, des enseignants, où vraiment... c'est sûr que c'est pas un empêchement automatique d'exercer la profession, mais clairement, d'avoir une absolution, ça facilite grandement les choses de ne pas avoir de casier. Donc, faut démontrer ce premier intérêt-là. Ça peut être aussi à cause du travail que la personne doit voyager aux États-Unis, donc pas de casier. Des gens qui auraient de la famille aux États-Unis, donc qui doivent voyager aux États-Unis, qui en ont besoin. Et le deuxième critère, c'est que c'est pas contraire à l'intérêt de la société.
Okay.
Donc, et là, ça devient beaucoup plus large. Donc, une personne elle-même peut avoir l'intérêt d'avoir une absolution, mais le crime qu'elle a commis, les circonstances dans lesquelles elle a été commis, la population, on pourrait utiliser le terme, là, serait choquée d'apprendre que la personne a pu bénéficier d'une absolution. Donc, c'est le deuxième critère aussi à prendre en considération.
OK. Fait que c'est ça, on garde en tête quand même qu'un crime, c'est un crime, puis la personne va être punie, mais si, genre, la personne aurait vraiment besoin d'avoir une absolution, elle pourrait l'avoir, dans le fond.
Oui, mais faut comprendre que l'intérêt véritable va pas supplanter l'intérêt de la société. C'est vraiment deux critères. Et le juge pourrait dire, tout le monde consent que vous avez l'intérêt véritable parce que vous travaillez aux États-Unis, par exemple. Mais en vertu de l'intérêt de la société, il est hors de question qu'on vous octroie une absolution. Et plus détaillé que ça, évidemment, là, je vulgarise au plus simple. Mais... Et des fois, en fait, une personne, on pourrait tous être d'accord pour dire que cette personne-là ne mérite pas d'antécédent. L'intérêt de la société, c'est qu'elle ait une absolution, mais cette personne-là n'a aucun intérêt à avoir une absolution. Donc, tu sais, c'est un ou l'autre qui peut ne pas être rempli. Ça prend vraiment les deux critères pour être en mesure d'avoir l'absolution.
Ah, OK. Merci. C'est vraiment intéressant comme processus, là, dans le fond. Fait que ça conclut pas mal, je pense, notre podcast, je pense.
Ben oui, on vous remercie énormément d'être venu aujourd'hui. Là, c'était très intéressant.
Ben, ça fait plaisir. On aurait pu en parler pendant des heures, mais on est assez limité. Donc, écoutez, si je peux conclure, en fait, c'est sûr qu'après ça, il va vous rester des questions. C'est clair. Consultez un avocat en droit criminel. Mm-hmm. Si vous avez des accusations, pensez pas que c'est facile, que vous pouvez vous représenter seul à la cour. Je pense que c'est vraiment important d'être bien conseillé. La cour, là, c'est une bébite en soi, là, qu'il faut... toutes les lois, les règles à la cour. Donc, de consulter un avocat en droit criminel et si vous avez des situations particulières qui s'appliquent à vous, donc ça touche l'immigration, les assurances, bien, consultez des avocats spécialisés dans les domaines pour vous assurer d'avoir les conseils les plus précis possibles.
Notamment vous, où est-ce qu'on peut vous rejoindre?
Moi, je suis permanent à l'aide juridique de Sherbrooke. Donc, moi, il y a aussi le côté admissibilité financière. Normalement, les étudiants sont assez admissibles. Mais donc, c'est le bureau d'aide juridique de Sherbrooke. Mais en fait, les conseils préliminaires aussi sont gratuits pour la plupart des avocats à travers la province. Il y a des conseils préliminaires qui peuvent être donnés gratuitement. Donc, il ne faut pas être gêné, il ne faut pas être stressé que l'avocat va nous charger 1 000 $ pour la première consultation. Faut pas être gêné. Et si vous pensez être admissible à l'aide juridique de Sherbrooke, vous avez juste à appeler. On va vous répondre avec plaisir.
Ah, super ça! Donc, merci beaucoup d'être avec nous, à nos auditeurs, et on vous revoit pour un prochain podcast cet hiver.
Merci, bonne journée!
Merci!
Merci.
Bonne journée!